Histoire salée, le podcast mère de France Bleu Brésil.
Bonjour, je m'appelle Valérie Lenigène. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire salée, ce podcast qui vous raconte des histoires de bateaux hors du commun, de grands navigateurs oubliés ou encore de fabuleuses aventures maritimes. Ici, sur un quai en Bretagne, j'ai entendu parler de l'étrange histoire de la Brittany Ferries, une puissante compagnie maritime créée par des paysans. Curieux, non ? Et pas n'importe quelle compagnie. C'est quand même le premier employeur de marins français. Elle transporte 2 millions de voyageurs et 200 000 camions par an. Alors quand j'ai appris qu'elle est née dans les choux-fleurs d'une crise d'artichaut, avec à la barre un paysan visionnaire appelé Alexis Gourvenec, une sacrée tête de pioche, il y a tout juste 50 ans, j'ai voulu en savoir plus. Avec Alex, preneur de son à France Bleu, on a donc filé dans le nord de la Bretagne, rencontré Pierre Billan-Poudec, lui aussi paysan et vice-président de la Brittany. Nous avons rendez-vous chez lui, à une demi-heure de Roscoff, le siège de la Brittany. Et ce qu'on espère, c'est qu'il va nous raconter ce qui s'est passé ici dans les années 70, alors qu'il n'y avait que des artichauts et des choux-fleurs à perte de vue. Et là, je crois qu'on arrive chez Pierre Billan-Poudec. On va sonner. Pierre ? On se permet de rentrer ?
D'accord, très bien.
Dans quelle belle maison ? On n'est pas très loin de la mer ?
Ah non, non, on est à vol d'oiseau, on est à 2 km de la mer, pas plus.
Pierre, est-ce que je peux vous appeler par votre prénom d'abord ?
Mais bien sûr, il n'y a pas de problème.
Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe ici dans les années 70. Alors autour de nous, c'était plein d'artichauts, de choux-fleurs.
Il y a eu un fort développement dans le Léon des cultures légumières. Choux-fleurs, oignons, même échalotes ensuite, endives, enfin toutes sortes de légumes, on va dire, du maraîchage.
Ici, nous sommes au bout de la Bretagne, loin vraiment de Paris et de l'épicentre de l'Europe. Et donc les paysans étaient confrontés à une énième crise de l'artichaut, une crise de la surproduction.
Finalement, quand on regarde une carte, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus près de Londres que de Paris. Et donc, à partir de ce moment-là, on a imaginé pouvoir moderniser le commerce sur l'Angleterre, puisqu'il existait déjà des bateaux, mais c'était des bateaux qu'il fallait charger à la main et les décharger. Donc, à ce moment-là, l'objectif absolument nécessaire, c'était la création de ce qu'on appelle un port en eau profonde à Roscoff.
Les paysans ici étaient menés par une personnalité, Alexis Gourvenec.
Oui, effectivement, Alexis avait l'avantage de cumuler sur lui-même un certain nombre de qualités remarquables, c'est-à-dire qu'en plus de dire ce qu'il fallait faire, il le faisait.
Et il va mener ses paysans vers des actions parfois violentes, notamment des émeutes à la sous-préfecture de Morlaix.
Oui, effectivement, il y a eu des bagarres très fortes. Alors, la prise de la sous-préfecture de Morlaix, où Alexis d'ailleurs et son collègue Marcel Léon ont été emprisonnés pendant quelques jours, ce qui a donné lieu à de violentes manifestations qui ont fait qu'Alexis a tout de suite été libéré avec son copain Marcel Léon et qu'après ça, les pouvoirs publics ont un peu changé d'avis. Il y a aussi, il faut savoir un petit quelque chose qui fait partie de l'histoire, mais c'est que beaucoup de ces jeunes agriculteurs qui s'installaient rentraient de la guerre d'Algérie. Donc eux, désarmer un CRS, ça leur faisait pas peur, parce qu'ils avaient vu pire que ça en Algérie. Et donc ça a été un élément qui a aussi un peu galvanisé les troupes et qui a aussi fait peur au pouvoir public, il faut le dire clairement.
Et face à ces violences, donc Georges Pompidou convoque les paysans et leur demande ce qu'ils veulent.
Absolument. Lorsque Georges Pompidou était ministre de l'Agriculture, il a convoqué tous les leaders paysans agricoles de France. Et quand Alexis est arrivé, Alexis lui a dit « Moi, je veux 5 choses. » Tout d'abord, le téléphone automatique en Bretagne, parce qu'avant, on était avec le 18 à Asnières, là. Ensuite, des voies express, mais qui partent de Brest vers Rennes et de Brest vers Nantes, et non l'inverse, parce que sinon, elles ne seront jamais finies. Et ensuite, un port en eau profonde à Roscoff, une université à Brest pour pouvoir former les fils et filles d'agriculteurs, et un port pétrolier à Brest. Donc sur les 5 choses qu'il a demandées, il en a eu 4.
Oui, il y a juste le port pétrolier qui n'a pas vu le jour, mais ça a été quand même complètement incroyable. Tout le reste a été obtenu, et notamment ce port en eau profonde, créé à Roscoff entre 1970 et 1972.
Oui, et le problème, comme je sais, l'histoire du port en eau profonde, quand il a été terminé, aucune compagnie ne voulait venir s'installer. Mais lui, au départ, il n'avait pas du tout l'intention de créer une compagnie maritime. Pas du tout. Pas du tout.
Il tente alors de convaincre les banques de créer une compagnie maritime, mais personne ne les suit.
C'est même parti plus loin que ça, puisqu'en fait, Alexis et ses collègues ont commencé par faire le tour des armateurs français pour leur demander de mettre une compagnie à Roscoff. Ensuite, devant les réponses négatives, ils sont partis jusqu'en Scandinavie pour refaire la même démarche. Et on leur a dit, vous savez, à Roscoff, il y a de l'eau, il y a toujours eu de l'eau, il n'y aura jamais que de l'eau. Donc Alexis, furieux de ses réponses, a décidé de créer sa propre compagnie par le biais de la SICA de Saint-Paul.
Donc la SICA de Saint-Paul, une coopérative agricole qui devient le principal actionnaire d'une compagnie maritime. Alexis Gourvenec, est-ce que vous savez s'il savait même nager ?
Non, je ne pense pas qu'il savait nager. Non, ce n'était pas sa préoccupation, là. Et donc, pour en revenir un petit peu à ce point-là, pour montrer la détermination des agriculteurs, c'est que pour créer la compagnie, il fallait des cautions. Eh bien, il y a quelques agriculteurs qui ont mis leur ferme en caution pour pouvoir avoir acheté ce premier bateau qui s'appelait le Quérisnel.
Ils risquaient de tout perdre ?
Ah, certainement qu'ils ont pris des gros risques, mais ça a été un investissement positif, on va dire.
Des paysans très solidaires entre eux, très soudés. Ils font face aux moqueries des banques, à l'inertie des pouvoirs publics. Mais grâce à cette solidarité, on peut dire qu'ils ont vraiment changé le cours de l'histoire. Ils ont donc fini par acheter le Quérisnel. Ils sont allés le chercher loin, ce cargo.
Oui, ils sont partis le chercher du côté d'Israël, puisqu'il devait servir pour le transport d'armes. Donc ça a été une négociation à la fois laborieuse, mais assez rapide quand même, puisqu'on voulait que cette compagnie démarre rapidement. Et comme le dit Alexis, on avait simplement 24 heures de retard, puisqu'on a démarré 24 heures, donc le 2 janvier 1973, alors que à ce moment-là, l'Angleterre était rentrée dans ce qu'on appelait le marché commun le 1er janvier. Donc on avait 24 heures de retard.
Dès le lendemain, ce cargo improbable prend la mer. C'est la première traversée de cette nouvelle compagnie, la BAI Bretagne-Angleterre-Irlande, qui deviendra plus tard la Brittany Ferries. Le cargo appareille en fin de journée. À bord, un seul passager, Alain Sibiril, et nous avons eu la chance de le rencontrer chez lui, dans le Nord-Bretagne. Ce 2 janvier 1973, il n'avait que 25 ans et il embarquait pour développer les transports Mesguen en Grande-Bretagne. Cette première traversée, il s'en souvient comme si c'était hier.
À bord, il y avait 3 véhicules chargés de pommes, dont un était une remorque. Il y avait un véhicule chargé de papier à cigarettes. Il y avait 4 véhicules chargés de choux-fleurs. Un véhicule chargé de laitue. 2 voitures, dont la mienne, une Ami 6 564 LM29, je me souviens encore du numéro.
C'était un cargo israélien, qu'on avait rebaptisé le Quérisnel, qui n'était pas du tout aménagé pour les voyageurs.
Pas du tout. J'étais le premier passager. Il y avait bien sûr les voyageurs qui étaient des chauffeurs, plus l'équipage, mais en tant que passager, j'étais le seul.
Vous dormiez dans des Algeco ?
C'était des Algeco qui étaient aménagés sur le pont supérieur du bateau. Il y en avait pour les chauffeurs. Il y avait également un Algeco qui servait de point restauration. Quand on connaît les cabines des ferries aujourd'hui, c'est le grand luxe par rapport à ce que c'était en 1973.
Des conditions de transport qui n'étaient pas du tout adaptées aux passagers, c'était même très rustique. Mais ces paysans incroyables se sont adaptés, et Pierre Billon-Poudegue me le confirme, ça n'a pas traîné.
Et très vite, on s'est aperçu qu'il y avait une forte demande en passagers, et ce qui a été ensuite le développement suivant de la Brittany Ferries.
Et il y a un moment improbable de l'histoire de cette compagnie maritime, c'est en 1974, quand le Tour de France prend aussi le bateau.
Et ça nous a servi d'un vecteur de communication très important de pouvoir donc conduire les cyclistes jusqu'en Angleterre pour une étape en Angleterre.
Bon, ça devait être comme assez incroyable, tous ces vélos, tous ces cyclistes, ces équipes sur le bateau.
C'était là la consécration déjà de la Brittany Ferry qui pouvait à la fois rendre service et puis montrer une image très ouverte sur l'Angleterre pour participer à cette première course en Angleterre.
Ensuite, la compagnie donc, se développe aussi sur la Normandie, oui. sur l'Irlande, puis oui. Sur l'Espagne.
Oui, on s'est assez vite aperçu que Roscoff Plymouth, c'était insuffisant pour faire vivre la compagnie. Donc très vite, on est parti à Saint-Malo. Et là, à Saint-Malo, on a eu un problème. À un moment donné, une autre compagnie a voulu venir s'installer. Donc on l'a chassé à coups de torchon mouillé. Là, c'était donc la compagnie la Titi Line qui s'est aperçue, c'était une compagnie allemande qui s'apercevait finalement qu'il y avait du grain à moudre en Bretagne et qui a voulu venir s'installer à Saint-Malo. Donc tous les agriculteurs sont partis sur le port pour l'empêcher d'accoster. Et le siège a duré 3 jours. Et donc elle a renoncé à venir s'installer. Donc la Brittany Ferry est restée seule à Saint-Malo pour aller sur Plymouth et Portsmouth. Et ensuite, on a avancé sur la Normandie avec le grand port de Ouistreham, donc à Caen, où là, on a une activité très importante. Et puis ensuite, on a monté sur Le Havre et Cherbourg.
Des paysans entrepreneurs qui deviennent de véritables aventuriers. Pierre, dans l'histoire de la compagnie, il y a aussi eu des frayeurs. Je pense à cette vague scélérate. Vous savez, ces vagues très rares, immenses. Eh bien, une de ces vagues a fait exploser les vitres du ferry, le pont Aven.
Oui, c'était donc en 2005, où une vague scélérate. Heureusement que ça a eu lieu à l'heure de midi. La plupart des gens étaient au repas, parce que, en fait, c'est les cabines de l'avant qui ont été détruites et personne n'y habitait. Sinon, il y aurait eu certainement des décès ou bien des gens très, très blessés.
Est-ce qu'on sait quelle était la hauteur de cette vague ?
Je pense qu'un bateau comme ça, ça fait au moins 30 mètres de haut. Donc on peut imaginer que c'est... Bon, heureusement que ces vagues scélérates sont assez rares, mais il ne faut pas être là quand elles arrivent. Quoi.
Il y a beaucoup plus longtemps, Pierre, c'était en 92, c'est aussi arrivé au Havelet, un ferry affrété par la Brittany, qui a lui aussi été heurté par une immense vague. Il s'apprêtait à quitter le port de Cork. On va aller rencontrer Gilda Sergent, qui était cuistot à bord. T'es prêt, Alex ?
Ouais, je suis prêt. Allez, c'est parti. Let's go !
Histoire salée.
Et ben voilà, nous voici à la porte de la maison de Gilda, en face de la plage du Riz sur la baie de Douarnenez. Et on espère qu'il va se souvenir et nous raconter la grosse frayeur qu'il a eue à bord du Havelet. Bonjour Gilda.
Le micro est là-bas.
Ça va bien ?
Ça va.
Merci de cet accueil.
Bienvenue en baie de Douarnenez.
On s'installe là, Gilda ?
On
est pas mal.
Fait pas trop frisqué, ça va.
Ça va bien. Vous étiez cuistot en 1992 sur le Havelet, un ferry affrété par la Brittany.
Il s'appelait le Cornouaille avant et après il s'appelait le Havelet.
Et il a donc été heurté par une immense vague alors qu'il s'apprêtait à quitter le port de Cork. Il était quelle heure et vous étiez où à ce moment-là ?
On était en pleine mer d'Irlande. Moi je dirais sur les coups de 4h du matin. Voilà. Et une grande vague... tribord arrière du bateau. On dormait et on a été projeté, puisqu'on était à deux dans la cabine, dans nos couchages, ce qu'on appelle les bannettes à bord des bateaux. Chef de cuisine et moi-même, le chef de cuisine dormait dans le couchage du bas, moi celui du dessus. On a été projeté contre la cloison. Et c'est que longtemps après qu'il s'est rendu compte qu'il avait mal au dos. Il m'a dit, mais pourquoi j'ai mal au dos ? Regarde, donc, il y avait la trace de mon pied sur son dos, parce que je lui ai tombé dessus. Des bateaux qui prennent de la gîte, ça arrive régulièrement, mais à ce point-là, quand même, c'était vraiment très très fort. Les alarmes sont déclenchées aussitôt à bord du bateau. Il s'appelle Raymond, c'est le gars qui était avec moi. On s'est regardé, on s'est dit, bon ben, c'est, ça y est. C'est cette fois-ci.
Vous avez pensé naufrage ?
Ah oui, on gîtait, on était un pied sur la cloison et un autre pied sur le plancher. Quoi, hein, il s'est redressé un petit moment, on s'est dit, ça y est, c'est bon, on reprend. Et il s'est repenché une deuxième fois. Et il est resté penché comme ça. Parce qu'il faut imaginer qu'un ferry, il y a plein de matériel, bien évidemment, mais il y a aussi des camions, même s'il n'y avait pas beaucoup, quelques voitures. Et tout est allé du côté gauche, tout à bâbord, et ça fait du poids. Et le bateau n'a jamais réussi à se redresser. On est resté couché comme ça. Et bien évidemment, alors après, ça a été la loi des emmerdes maximum, quoi, la loi de Murphy, quoi.
C'est-à-dire ?
Ben, il y a des passagers à bord, donc les passagers ont été projetés comme nous, et peut-être pas dans le même état. Certains étaient blessés, des crises d'angoisse, fallait s'en occuper. Et les réservoirs dans le garage ont déclenché un incendie. Donc il a fallu qu'une équipe de pompiers se mette en place pour aller éteindre l'incendie dans le garage. Et puis la tempête était toujours là. Moi je m'occupais avec d'autres de la distribution des gilets de sauvetage, puisque le commandant nous annonce qu'à un moment, on lance un appel, un SOS à tous les bateaux sur zone. Ça fait beaucoup de bruit, un bateau qui penche d'un côté où tout s'arrache, ça fait un bruit. Donc là, à l'extérieur, on entend les matelots qui travaillent préparer les embarcations de sauvetage. Les embarcations de sauvetage sur un bateau qui est penché, toujours. Et là, on ne réagit pas de la même manière. Je me rappelle d'un gars qui naviguait nous, qui était un vieux marin, un vieux briscard. Hein. Vraiment tatoué, celui-là, on dit la peur de rien. Eh bien, il est resté tétanisé, accroché à une épontille. Les épontilles, ce sont des poteaux en fer qui soutiennent les ponts. Et il ne s'est pas décollé de là, quoi. Impossible. Il y en a un autre qui s'est mis à genoux pour prier, alors que j'avais aucune idée avant que ce camarade de travail puisse avoir une relation quelconque avec la religion. D'autres après sont rendus compte de ça, ils avaient même oublié, ils sont allés chercher leur papier d'identité dans leur cabine pour qu'on reconnaisse leur corps au cas où après. Alors le jour s'est levé, à un moment, on était toujours dans la tempête, on a vu quelques bateaux de pêche, quelques cargos aussi se mettre autour de nous, et le commandant a dit bon, c'est trop dangereux d'évacuer, on va essayer de ne pas le faire. Par contre, on va essayer de faire demi-tour avec un bateau toujours penché dans une pleine mer. Il dit ça va pas être facile, il dit accrochez-vous, ça va être encore un moment difficile. Mais on va essayer de faire demi-tour parce qu'on est plus proche du port de Cork pour retourner sur Cork. Donc le commandant a réussi sa manœuvre. On a commencé à retourner tranquillement vers Cork et accompagné avec tous les bateaux qui avaient accepté de se détourner pour être toujours prêt au cas où on aurait dû évacuer le bateau.
Finalement, rien de très grave, simplement des blessés légers. Est-ce que c'est quand même la plus grosse frayeur de toute votre vie de navigant ?
Ça a été la plus grosse frayeur, oui. À moi, il y a plein d'autres. Et alors, j'ai navigué pendant 25 ans sur les ferries, sur la Manche, et le golfe de Gascogne et mer d'Irlande. Et on en a ramassé des tempêtes. Après, j'ai navigué aussi au long cours avant et après cette période-là. J'ai pas eu des tempêtes de ce niveau-là, quoi. Et surtout cette frayeur. Alors, moi, j'ai continué à naviguer, mais pendant des années encore après, pendant qu'on dormait, quand la gîte était un peu trop importante sur n'importe quel navire, je me réveillais. C'était comme ça. Et beaucoup de personnes ont quitté après ce métier de marin, après cet événement. Les cellules psychologiques n'existaient pas à l'époque. Moi, je me rappelle, on a eu droit d'aller à terre, on a tous donné des coups de fil, c'était encore des cabines avec des pièces, et voilà, et d'appeler ma mère, voilà, et là, de pleurer au téléphone, oui, vraiment, en disant, bon, là, je pense qu'on a... on a eu chaud, quoi.
Mais finalement, en 50 ans de Brittany Ferries, quasiment rien, pas de naufrage, pas de fortune de mer majeure. La Brittany garde son cap malgré les tempêtes, le Covid, le Brexit, la concurrence déloyale sous des pavillons de complaisance. Après un effondrement de son trafic pendant les années Covid, elle a été renflouée par l'État en 2021 et elle tient bien la barre. Avec plus de 2000 salariés, dont 1450 marins sous pavillon français, la Brittany Ferries transporte 2 millions de voyageurs en moyenne, 200 000 camions par an, entre la Bretagne, la Normandie, le sud de l'Angleterre, l'Irlande ou encore l'Espagne. Et malgré ses coups de tabac, elle continue à renouveler sa flotte avec 5 nouveaux navires, rien qu'entre 2019 et 2025. Les deux derniers seront des navires hybrides, au GNL, au gaz naturel liquéfié, mais aussi avec des batteries pour passer à l'électrique à quai ou lors des manœuvres de port. Bref, elle s'adapte aux nouveaux défis du changement climatique.
Histoire salée, le podcast mère de France Bleu Brésil.
C'était l'extraordinaire épopée de la Brittany Ferries, un épisode que vous pouvez à tout moment réécouter sur l'application Radio France ou sur francebleu.fr. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures maritimes.